Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Ça sera peut-être difficile à tenir, mais c'est un enjeu de santé publique. Il y a eu déjà des procès-verbaux qui ont été dressés pour non-port du masque et aussi non-respect des gestes barrières. Cela n'est plus tolérable.
Les préfets de Gironde et des Bouches-du-Rhône serrent la vis. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Événements annulés, soirées étudiantes proscrites. Nous irons à Bordeaux et Marseille dès le début de ce journal. 8 morts dans un EHPAD de l'Aveyron identifié comme foyer de contamination. Sa directrice, ce soir, appelle à l'aide. Il n'y a pas que Charlie Hebdo menacé par Al-Qaïda. C'est toute la France qui l'est. On entendra l'avertissement de l'avocat de l'hebdomadaire. Dans ce journal également, Poutine réclame des preuves de l'empoisonnement de son opposant Alexei Navalny. À la côte ouest des États-Unis suffoquent à cause des incendies historiques. Et puis à une semaine de l'arrivée à Paris, quels Français peuvent encore briller sur le tour? On posera la question à notre envoyé spécial. Le temps de demain, encore très ensoleillé et très chaud, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle termine en hausse ce soir, plus 0,35% à 5051 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com. Et puis l'interview Echo à 22h20. Emmanuel Duteil reviendra sur les accords de chômage partiel de longue durée signés dans le monde du numérique. Et ce, pour éviter des licenciements. Son invité, Mathieu Rosy, directeur général de la Fédération Syntec. Et puis on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Face à la progression du virus, le Premier ministre avait demandé la semaine dernière au préfet de Gironde et des Bouches-du-Rhône de serrer la vis. C'est désormais chose faite, que ce soit à Bordeaux ou Marseille, il va falloir apprendre à vivre autrement. Les mesures annoncées cet après-midi y sont globalement similaires. Stéphane Place, vous êtes notre correspondant en Gironde. La préfète a mis l'accent tout particulièrement sur les rassemblements. Ils seront désormais beaucoup plus limités.
Oui, tour de vis avec d'abord pour tous les événements publics une jauge maximale qui passe de 5000 à 1000 personnes pour toute la Gironde. Fêtes foraines, fêtes des voisins ou encore brocantes sont interdites et dans les rues, sur les quais de la Garonne, sont désormais proscrits, malgré le temps estival, les rassemblements de plus de 10 personnes avec verbalisation à la clé, prévient la préfète Fabienne Bussiaud.
Ça sera peut-être difficile à tenir, mais c'est un enjeu de santé publique. Il y a eu déjà des sanctions, des procès-verbaux qui ont été dressés, c'était vendredi soir. 26 ont été dressés sur les quais, là c'était pour non-port du masque et aussi non-respect des gestes barrières, c'est-à-dire qu'ils s'agglutinent les uns contre les autres et que cela n'est plus tolérable. Donc nous verbalisons.
Un escadron de gendarmes mobiles va venir prêter main forte aux policiers girondins pour l'application stricte de ces nouvelles mesures et l'infectiologue Denis Malvy en profite pour demander aux girondins de limiter drastiquement les rassemblements familiaux, amicaux, le nombre de participants aux fêtes de mariage ou d'anniversaire notamment.
Là, il n'y aura pas de gendarmes derrière chaque porte et derrière chaque citoyen. Puis qu'on s'abstienne du tactile, y compris avec les personnes que l'on aime infiniment, avec que l'on veut célébrer, pour des anniversaires, des fêtes, des promotions ou nos aînés qui avancent en âge avec leurs anniversaires.
Quant aux journées du patrimoine qui devaient se tenir le week-end prochain, elles sont purement et simplement annulées en Gironde.
Stéphane Place en direct de Bordeaux pour Europe 1. Direction maintenant les Bouches-du-Rhône, où là, l'obligation du port du masque s'étend dans les communes les plus touchées par le Covid. Obligatoire désormais de 6h à 2h du matin. Restriction également dans les EHPAD, une visite quotidienne par résident, 2 personnes maximum. Mais l'annonce qui fait le plus réagir, c'est l'annulation pure et simple de la foire internationale de Marseille qui devait débuter le 25 septembre. Sa tenue avait pourtant été confirmée la semaine dernière. Les exposants avaient d'ailleurs déjà commencé à installer leur stand. On remballe tout, la mort dans l'âme, explique le président de la société organisatrice Loïc Fauchon.
C'est une énorme déception. C'est surtout l'emploi de plusieurs milliers de personnes pendant une période déterminée et puis de plusieurs centaines toute l'année. Et donc au moment où on nous dit qu'on veut relancer l'économie, évidemment, nous sommes très déçus, très désemparés parce qu'il va falloir se reprendre pour l'avenir parce que la société elle-même, les sociétés qui travaillent sont gravement touchées. On a le sentiment d'une certaine injustice quand on voit des comportements totalement irresponsables dans Marseille, comme j'en observais hier à la terrasse de certains cafés, dans des pubs, sur la corniche, où à peine la moitié des gens portaient un masque. De l'autre côté, nous sommes des gens professionnels, disciplinés, et évidemment nous nous plions à cette décision. mais avec infiniment de regrets.
Le président de la SAFIM, Loïc Fauchon, au micro européen de Nathalie Chevance. Les chiffres ce soir de l'épidémie, 6158 nouveaux cas et 39 clusters supplémentaires ont été recensés ces dernières 24 heures. Clusters qui s'avèrent parfois mortels, notamment en maison de retraite. L'EHPAD de Sévrac-le-Château dans l'Aveyron déplore ce soir un 8e décès parmi ses pensionnaires. Un foyer d'infection avait été détecté la semaine dernière au sein de cet établissement. Sa directrice lance ce soir un appel à l'aide.
Je lance de nouveau un appel aux soignants de la France entière, puisque nous disposons de logements. Donc les soignants peuvent venir sur l'établissement pour plusieurs semaines de façon à pouvoir nous aider à prendre en soin les résidents, car pour bien les prendre en soin, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut rester sur l'établissement pendant plusieurs jours. Nous ne comprenons pas en fait comment c'est arrivé. Nous sommes en colère parce que les soignants ont respecté tous les gestes barrières, les mesures ont été prises, elles ont été respectées et malgré tout, nous nous trouvons dans cette situation. Nous sommes véritablement l'exemple que malgré les mesures sanitaires qui sont prises, il y a des risques, surtout avec des personnes aussi fragilisées que nos résidents.
La directrice de l'EHPAD de Sévrac-le-Château en Aveyron, Florence Vajda-Léonie au micro européen de Benjamin Péter. On vient d'apprendre l'annulation de la FIAC 2020, c'est le principal rendez-vous du monde de l'art contemporain à Paris. La FIAC qui devait se dérouler du 22 au 25 octobre prochain, annulé donc en raison de l'épidémie. Dans le reste du monde, la progression du virus là aussi s'accélère. Près de 308 000 nouveaux cas ont été recensés hier par l'OMS. Un record, son directeur européen Hans Kluge estime par ailleurs illusoire de penser que la mise au point d'un vaccin permettra de mettre fin à l'épidémie. Selon lui, les futurs vaccins pourraient ne pas être efficaces sur l'ensemble de la population.
Europe Soir, le 22-22-30.
Valéry Giscard d'Estaing, hospitalisé depuis cet après-midi à l'hôpital parisien Georges Pompidou. L'ancien président de la République, âgé de 94 ans, serait dans un service de réanimation pour des problèmes respiratoires, selon nos confrères du Parisien. Information que ne confirme pas son entourage. J'aurais voulu ne jamais voir cette vidéo au procès des attentats de janvier 2015. Les proches d'Ahmet Merabet ont témoigné de leur colère et de leur peine, 5 ans après l'assassinat de ce policier dont l'exécution filmée avait fait le tour du monde. Journée d'audience marqué également par les déclarations de l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka. Il alerte sur les nouvelles menaces proférées par Al-Qaïda contre le journal satirique pour avoir réédité les caricatures de Mahomet.
Évidemment, Charlie Hebdo est menacé de manière très précise. Des photographies sont diffusées, des noms sont cités. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète. Il ne faut pas laisser cette équipe seule au front à porter ce combat. Le meilleur bouclier, c'est qu'il y ait 5, 10, 50 Charlie Hebdo, qu'on n'ait plus une cible sur le dos. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait qu'en réalité, ce sont 66 millions de Français qui sont menacés par ces communiqués d'Al-Qaïda, qui visent aussi bien le président de la République, dont on dicte la conduite, puisqu'il ne devrait plus permettre la liberté de conscience des Français. Les médias sont visés. Et leur liberté est mise en cause. Les Français qui osent soutenir Charlie Hebdo sont menacés. Et puis les musulmans sont mis en garde lorsqu'ils ne soutiennent pas suffisamment le prophète, c'est-à-dire lorsqu'ils ne vont pas, selon ces gens, assassiner n'importe qui, n'importe où. Donc ce sont tous les Français qui sont menacés et c'est tous les Français qui doivent réagir.
L'avocat de Charlie Hebdo, maître Richard Malka, au micro européen de Chloé Triomphe. Une deuxième démission dans l'équipe d'Anne Hidalgo, après Christophe Girard, en juillet, c'est au tour de l'adjoint chargé de la Seine, Pierre Edenbaum, de quitter ses fonctions à la mairie de Paris. Une collaboratrice l'accuse de harcèlement sexuel. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Le tribunal de commerce de Marseille a validé l'offre de reprise partielle du groupe Alinéa par ses actionnaires. Offre de reprise qui prévoit la suppression de 992 postes. Seulement 9 des 26 magasins de l'enseigne d'ameublement seront sauvés. Faillite et plans sociaux en série, voilà ce que redoute dans les mois à venir Jean Castex. Le Premier ministre demande donc aux entreprises de signer très vite et massivement des accords d'activité partielle de longue durée. Et ce, d'ici au 1er novembre. À l'étranger, Alexei Navalny va mieux. L'opposant russe peut désormais quitter son lit temporaire. Indique l'hôpital à Berlin où il est soigné après son empoisonnement. Pour autant, l'affaire est loin d'être terminée. Comme en témoigne cet échange téléphonique aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président français a demandé que toute la lumière soit faite sans délai sur ce qu'il a qualifié de tentative d'assassinat. Accusation non étayée et malvenue, lui a répondu Poutine, qui demande, Didier François, qu'on lui présente des preuves.
Oui, alors particulièrement des échantillons biologiques. Vous savez, ces analyses sanguines réalisées par les laboratoires spécialisés de 3 pays, l'Allemagne donc, où Alexei Navalny est soigné, mais également la France et la Suède, qui sont les états de référence en matière d'expertise technique pour l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques, dont on rappelle que la Russie est membre signataire. Or, il se trouve que les trois études réalisées en parallèle de manière indépendante sont toutes parvenues aux mêmes conclusions, à savoir qu'Alexei Navalny avait été empoisonné par un agent neurotoxique d'origine militaire russe, en l'occurrence le Novichok. Il n'y a donc plus le moindre doute sur les origines de cette attaque, qu'Emmanuel Macron qualifie à juste titre de tentative d'assassinat, et Vladimir Poutine le sait parfaitement. En revanche, il pourrait avoir été réellement surpris par les capacités des laboratoires occidentaux à identifier la molécule utilisée, qui est extrêmement virulente, même employée à des doses infinitésimales, et dont les services semblaient penser qu'elle ne serait pas décelée. C'est donc ça qui expliquerait et l'autorisation donnée à Navalny d'aller se faire soigner en Allemagne, et la volonté du Kremlin d'accéder à ces expertises biologiques afin de pouvoir évaluer notre vrai niveau de compétence.
Analyse signée Didier François pour Europe 1. Direction maintenant les États-Unis, dont toute la côte ouest est en proie depuis plusieurs jours à des incendies historiques. Donald Trump est arrivé tout à l'heure en Californie, l'un des trois États ravagés par les flammes, avec celui de Washington et de l'Oregon. Oregon où l'on retrouve Xavier Yvon, notre envoyé spécial. Xavier, l'air est ce soir tout simplement irrespirable.
Ah oui, et avec cette nouvelle journée, on reçoit les mêmes alertes sanitaires. L'air est extrêmement dangereux à respirer. Au-delà des pires indices de pollution, les autorités demandent à la population de rester au maximum à l'intérieur. Et je peux vous dire que même dedans, on sent cette odeur de brûlé qui envahit tout. C'est évidemment un problème pour les évacués. Ils sont des dizaines de milliers et certains doivent dormir dehors dans des tentes. C'est pour eux que la Croix-Rouge a ouvert un hangar à Salem, où je me trouve. On a ouvert ce lieu pour offrir un répit, pour respirer un air meilleur, explique l'une des responsables. Il y a un endroit pour les familles, les enfants peuvent regarder la télé. Mieux respirer à l'intérieur, c'est un peu le monde à l'envers et c'est surtout un problème avec le Covid-19 toujours très présent. Alors pour éviter les contaminations, il y a tout un protocole sanitaire pour rentrer dans le bâtiment avec prise de température. Pandémie plus incendie, c'est un cocktail explosif, notamment pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Et les experts préviennent, l'air pourrait rester gravement pollué dans la région encore plusieurs semaines.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. J'ajoute que Donald Trump vient à l'instant de balayer les inquiétudes sur le réchauffement climatique. Ça finira par se refroidir, assure le président américain. Un peu plus tôt, son adversaire à la course à la Maison-Blanche, Joe Biden, l'avait traité de pyromane du climat. On termine avec le Tour de France. Pas d'étape aujourd'hui en Isère, mais une journée de repos. Bienvenue avant d'attaquer la dernière semaine dans les Alpes. À l'occasion également de faire un point sur le classement. Axel May, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur ce Tour de France. Est-ce que les Français ont encore une chance de briller, voire d'endosser l'un des maillots convoités ?
Eh bien, le maillot jaune, non. D'ailleurs, à une semaine de l'arrivée, il faudrait une sacrée surprise pour que Primoz Roglic ne devienne pas le premier Slovène à remporter le Tour. Au classement général, le meilleur Français est actuellement Guillaume Martin, 11e après de 7 minutes de Roglic.
Le top 10, c'est clairement jouable. Moi, je ne rends pas les armes et j'espère bien, en troisième semaine, avoir des occasions de jouer, en tout cas, une victoire d'étape.
Quant aux autres leaders français, eh bien, on le rappelle, Romain Bardet a abandonné après sa chute dans le Massif central et se remet de sa commotion cérébrale. Thibaut Pinot, qui souffre toujours du dos, passe 3 heures par jour aux soins et s'est fixé comme objectif d'arriver à Paris. Julien Alaphilippe, après avoir eu le maillot jaune et gagné une étape, tout de même en début de tour, n'a pas la forme étincelante de l'année dernière. Et puisque vous me posiez la question sur les maillots, celui de meilleur grimpeur est porté actuellement par Benoît Cosnefroy, mais plus puncher que grimpeur. L'ancien champion du monde espoir sait qu'il va le perdre, peut-être dès demain. Et Pierre Roland, qu'on a vu beaucoup à l'avant ces derniers jours, peut, pourquoi pas, avec un concours de circonstances favorables, s'emparer de ce fameux maillot à pois.
Merci Axel May qui nous fait vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1 aux côtés de Marguerite Lefebvre. On passe à la météo. Anissa Haddadi, le ciel sera un peu plus voilé demain.
Oui, mais ça sera très léger, Julien. Je préfère vous prévenir. Sur toute la façade ouest de la Bretagne au Pays Basque, la journée commence donc avec un ciel un petit peu plus couvert, vous le disiez. Sur la pointe bretonne et sur la Loire-Atlantique, là, nous aurons des nuages bas et des entrées maritimes demain matin. Elles seront assez nombreuses et vous verrez qu'au fil des heures, ces nuages vont se dissiper. Ailleurs, il fait très beau dès le début de journée. Dans l'après-midi, eh bien, ce voile nuageux avance à l'intérieur des terres pour recouvrir très légèrement les régions qui vont de la Normandie jusqu'au Roussillon. Sur la Bretagne et les Pyrénées, quelques toutes petites gouttes sont possibles demain dans l'après-midi. Ailleurs, il fait encore très beau, très sec et très chaud, avec 11 à 21 degrés demain matin, 11 pour Metz, 21 à Bastia. Et puis dans l'après-midi, nous sommes toujours au cœur de ce pic de chaleur, avec des températures bien au-dessus des normales de saison. 22 à Cherbourg, 25 à Quimper, 28 à Dunkerque demain, 30 à Nice et Carcassonne, 32 pour Nîmes, Saint-Étienne et Belfort, 33 à Clermont-Ferrand, 34 à Lille et Lyon, 35 pour Paris et 36 la maximale pour Charleville-Mézières.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamou de Boursier.com, suivi de l'interview actu. Emmanuel Duteil reviendra sur les accords de chômage partiel de longue durée signés dans le monde du numérique pour éviter les licenciements. Son invité ce soir, Mathieu Rosy, directeur général de la fédération Syntech. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Didier Hamou de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine en nette hausse sur fond de poursuite des opérations financières.
C'est très ferme, oui, à Wall Street. Le Dow Jones gagne 1,18%, 27 993 points. Le Nasdaq grimpe d'1,87%. Un marché qui a été très nerveux la semaine dernière, qui remonte donc actuellement 11 056 points. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'opérations financières en ce moment à Wall Street. Ça commence fort cette semaine, puisqu'il y a le rachat du britannique ARM, ARM, par l'américain Nvidia. Là, on est dans les puces électroniques pour 40 milliards de dollars. Très grosse opération. Nvidia s'envole de 6% ce soir, 515 dollars à Wall Street. Il y a aussi dans la santé Gilead qui s'offre Immunomedix. C'est une société de traitement pour le cancer du sein. 20 milliards de dollars sur la table. Ce sont d'énormes opérations financières qui animent la cote, évidemment. Gilead monte ce soir d'1,5%. Donc du côté des valeurs de technologie, Apple grimpe de 3%. Ça remonte aussi sur IBM, plus 0,5%, sur Microsoft, plus 0,7%, et sur Tesla, surtout, qui rebondit de 12,6%. Le titre a été chahuté la semaine dernière. Ça remonte fortement. 419,60 $, c'est un petit peu le yo-yo en ce moment sur Tesla depuis quelques séances. En revanche, c'est plus mou chez Amazon, moins 0,4%. Netflix aussi perd 1,2%. Le pétrole revient sous les 40 dollars, le Brent, 39,65 $ ce soir. On est en baisse de 0,7%, on marque une pause. En revanche, l'euro remonte 1,1865 face au dollar.
La Bourse de Paris a aussi commencé la semaine en hausse.
Oui, alors c'est plus modeste, hein, plus 0,35% sur le CAC 40, 5051 points. Quelques valeurs ont quand même grimpé en profitant de l'actualité favorable, dans l'aéronautique en particulier, après la commande grecque de 18 Rafales. Dassault Aviation a gagné 9% et Thales, l'équipementier électronique qui équipe le Rafale, monte de 4,5%. Et puis le secteur des puces, donc on en parlait tout à l'heure avec ce rachat du britannique ARM par l'américain Nvidia, ça fait flamber STM, plus 4%. Soitec aussi monte de 6% dans le secteur des puces électroniques.
Exception du jour, le secteur pétrolier a perdu du terrain.
C'est ce qui a plombé la bourse, en fait, le baril donc sous les 40 dollars, le Brent. Et du coup, toutes les valeurs pétrolières baisse assez fortement d'ailleurs, Vallourec moins 4%, Total qui pèse très lourd dans le CAC 40, moins 1,5% sur Total, Technip moins 0,5% avec CGG aussi, un secteur pétrolier en net repli. Sur les autres places financières, pas vraiment d'indication, le DAX à Francfort recule de 0,07%, Londres moins 0,10%, Madrid plus 0,11%, et donc le CAC 40 en hausse de 0,35%, 5051 points.
Merci beaucoup Didier Hamou de Boursier.com et à demain.
À demain.
22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview Écho. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Mathieu Rosy.
Bonsoir Mathieu Rosy.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de la fédération Syntech. Alors Syntech regroupe des sociétés spécialisées dans les professions du numérique, de l'ingénierie, du conseil. Vous représentez 80 000 entreprises, 910 000 salariés. Si j'ai eu envie de vous appeler ce soir, c'est pour parler activité partielle de longue durée. Vous venez de signer un accord avec vos principaux syndicats. Alors je rappelle ce que c'est quand même l'APLD. Pendant 2 ans, un chef d'entreprise peut baisser le temps de travail du salarié de 40% et donc baisser son salaire d'autant, mais l'État prend en charge une partie de la perte de salaire. Avant d'entrer dans le détail de cet accord qui est très intéressant, c'était indispensable chez vous de signer un tel accord pour ne pas licencier et donc pour ne pas perdre en compétences ?
C'était très nécessaire parce que si aucun accord ne se signait dans la branche Syntech, chaque entreprise voulant recourir à un dispositif se serait trouvée contrainte de soit le signer dans sa propre entreprise avec son dialogue social d'entreprise, ou soit, pour les entreprises ne pouvant pas le faire, aurait été privée de l'accès à ce dispositif.
Oui, puisque pour que nos auditeurs comprennent bien, là, l'idée, c'est signer au niveau de la branche. Et après, chacun des adhérents du Syntec, hein, donc je disais 80 000 entreprises, 910 000 salariés, chaque chef d'entreprise, quelle que soit sa taille, peut se dire, je prends cet accord et je le duplique dans mon entreprise. C'est ça l'idée, hein ?
Absolument, puisqu'il y a une annexe qui comporte un document unilatéral que le chef d'entreprise peut prendre comme tel et plugger dans son entreprise. C'est un peu du plug and play, de l'immédiatement utilisable si l'entreprise ne veut pas renégocier des clauses spécifiques supplémentaires.
On va venir sur les garanties parce qu'elles sont effectivement très robustes et très intéressantes. Si vous l'avez fait, c'est parce que vous dites que votre secteur est confronté à une sous-activité significative et durable. Donc le fait de pouvoir baisser le temps de travail pendant 2 ans d'une partie de vos salariés, c'est avant tout pour ne pas les licencier et pour ne pas perdre ces compétences qui sont si compliquées à trouver dans un secteur comme le vôtre.
Absolument. Vous l'avez dit, on est un secteur du conseil, du numérique, de l'ingénierie, de l'événementiel. Donc nous sommes un secteur de prestataires de services. Par conséquent, les entreprises de la branche Syntec vont subir avec un certain effet retard les décisions de leurs clients. Donc, on a des entreprises, des grandes entreprises industrielles ou de construction qui prennent des décisions aujourd'hui ou demain sur leurs choix stratégiques, et ça va se répercuter mécaniquement sur la sous-traitance Syntec pendant des mois, voire potentiellement 2 années ou 3 années pour certains secteurs fortement touchés comme l'aéronautique. Donc on avait besoin d'un dispositif qui accompagne, non pas sur un temps très ponctuel aujourd'hui, mais qui accompagne sur la durée, l'adaptation de la capacité de production de nos adhérents. À ce titre, la PLD, qui permet de travailler jusqu'à 2 ans sur une activité partielle, est un outil qui est très intéressant puisqu'il est adapté à des entreprises comme les nôtres dont l'activité risque de redémarrer de façon plus lente que le reste de l'économie. On l'avait vu pendant la crise, on avait un taux d'activité qui était relativement supérieure à la moyenne au cœur du confinement. Et plus les mois passent, plus on voit des secteurs repartir assez vite et le nôtre repartir plus lentement, tout simplement parce qu'on est un peu en bout de chaîne. Il faut un dispositif adapté à ce phénomène de bout de chaîne.
Vous parliez tout à l'heure d'engagement robuste. Rentrons peut-être maintenant dans le détail de cet accord parce que c'est ça qui est très intéressant. Oui, vous allez baisser les salaires de vos salariés. Oui, vous allez baisser le temps de travail. Oui, l'État va vous aider. Mais vous prenez également des engagements. Interdiction d'augmenter les salaires fixes des dirigeants salariés. Interdiction de licencier. Obligation d'informer les CSE ou en tout cas les salariés tous les 2 mois. Je pense que la décision d'interdire d'augmenter les salaires, c'était très attendu de la part des partenaires sociaux et c'est fort. Et pareil pour l'interdiction de licencier.
Oui. Alors, je pense qu'il y a 3 mots-clés dans cet accord qui sont 1, le maintien de l'emploi, de 2, la solidarité et de 3, une garantie du pouvoir d'achat. Le maintien de l'emploi, c'est de se dire que dans les établissements qui vont recourir à la PLD, pendant la période de la PLD, on ne mettra pas en place de PSE, ça ne sera pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Et bien sûr, on veut privilégier, en tant que partenaires sociaux, garant du maintien de l'emploi, on veut privilégier la PLD plutôt que les PSE. C'est la première chose. La deuxième, c'est une mesure de solidarité. Difficile de demander à des salariés d'être en activité partielle et de rogner sur leur salaire une partie, tout en acceptant que potentiellement des dirigeants connaissent des augmentations sensibles. Ça peut se discuter, mais sur le principe, ça nous semblait relativement sain. Et troisième élément, c'est celui d'un maintien autant que faire se peut du pouvoir d'achat. Nous, on ajoute des garanties au-dessus de la loi qui font que sur les petits salaires, les moins élevés dans la branche, on aura jusqu'à 98% du salaire du salarié qui sera maintenu. Donc les entreprises vont compléter pour les bas salaires une part sensible pour que le salarié à l'arrivée s'y retrouve quasiment à l'identique, pour que la vie des salariés ne s'en trouve pas trop profondément affecté.
Soyons très clairs, sans un tel accord, les entreprises devaient licencier des dizaines de milliers d'emplois.
On estime, si rien n'est fait dans la branche, le potentiel de licenciement sur les 2-3 prochaines années de 70 000 à 100 000. Vous dire combien précisément de licenciements vont être évités grâce à cet accord, je ne le peux pas. Mais on sait que c'était très attendu par des entreprises et pas forcément des moindres. Donc on sait que ça aura un impact significatif sur l'emploi et que sur ces 70 000 pertes potentielles, une partie non négligeable va se trouver maintenu et sauvé grâce à ce dispositif.
Eh bien, un grand merci.
On fera les comptes peut-être dans quelques mois.
On fera les comptes en effet d'ici quelques mois. Merci beaucoup Mathieu Rosy, directeur général de la Fédération Syntec, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite sur Europe 1. 22h29 sur Europe 1. Voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Croissance, la reprise malgré le Covid, titre Les Échos. La Banque de France a en effet revu à la hausse ses prévisions sur l'activité économique. Le PIB retrouverait son niveau de la fin 2019 dès le premier trimestre 2022. Le gouvernement tablait plutôt fin 2022. Mais parce qu'il y a un mais, l'accélération de l'épidémie et les difficultés de certains secteurs incitent néanmoins à la prudence, écrivent Les Échos. L'analyse de l'opinion est plus politique. Si les prévisions La vision de la Banque de France se confirme, cela pourrait laisser Emmanuel Macron espérer une réélection lors de la présidentielle de 2022, écrit le quotidien libéral. Alors si l'Élysée, à l'Élysée, on préfère prendre ses résultats humblement, il n'empêche, selon la Banque de France, la récession ne serait pas de 11%, mais de 8,7% cette année. Un choc violent, certes, mais qui serait suivi par un rebond de 7,4% en 2021 et de 3% en 2022, soit une progression de plus de 10% du PIB en deux ans, inédit pour un chef de l'État en campagne, analyse l'opinion. L'Amérique dévorée par les Flamme titre pour sa part en une La Croix, mais c'est l'éditorial qui interpelle. Menace en rafale, écrit Guillaume Goubert. Il s'inquiète de la récente course à l'armement lancée par la Grèce en première ligne face à l'expansionnisme turc. Alors certes, il faut réagir, ne pas laisser Ankara dicter sa loi en Méditerranée orientale, mais de là à multiplier les contrats d'armement, il n'y a qu'un pas qu'Athènes vient de franchir allègrement. Je rappelle que la Grèce va en effet acheter à la France 18 avions de combat rafale, dont 12 d'occasion. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien Pierce, comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Bon, eh bien écoutez, c'est une bonne semaine qui commence, alors nous sommes tous les deux en forme.
Eh bien tant mieux, 39-21 pour vous appeler, pour venir partager cette bonne humeur à votre micro dans la libre antenne.
Exactement, et je vous dis à tout à l'heure,
à
23h.